Donc nous allons écouter à présent Madame Asia Belhabib de l'université de Kenitra au Maroc. Elle abordera donc le printemps arabe du texte romanesque. Madame Belhabib est l'une des spécialistes reconnues de Khatibi, il me semble. Elle a dirigé plusieurs collectifs portant sur la littérature du Maghreb. Elle s'intéresse en particulier aux écrivains Mohamed Leftar, Ben Jelloun, Mohamed Nedadi, Abdel Attayer et ainsi de suite, à des écrivains maghrébins mais aussi des écrivains du Mashrek, de langue française. Et elle vient de m'apprendre qu'elle prépare un collectif qu'elle dirige qui s'intitulera « Quand le printemps est arabe ». Je laisse donc la parole à Madame Belhabib.
Merci Madame la Présidente. Alors, je voudrais citer en exergue une petite phrase. L'imagination introduit l'étrange dans le quotidien, le rêve dans la réalité, l'inattendu dans l'évidence, la vie dans le théâtre. Fernando Arrabal. Les révolutionnaires font table rase du passé. Ils chassent les fantômes, râlent les rebelles qui se prennent pour des revenants et qui confondent l'insurrection des vivants avec la résurrection des morts. Critiquant la Révolution française qui s'inspira du modèle antique, Karl Marx, le père du socialisme scientifique, affirmait en 1852 que la Révolution devait résister à l'attrait des cimetières et renoncer à tirer sa poésie du passé. Aujourd'hui encore, beaucoup de progressistes continuent de croire que pour bâtir un monde nouveau, il faut rompre avec la tradition des générations disparues. Peut-on enterrer deux fois ses morts? La fréquentation des spectres est cependant aussi considérée comme la genèse de toute émancipation et le retour sur les cendres anciennes comme les prémices de la révolte. Quel chemin emprunte la littérature? Qui n'est pas de la vraie vie, qui n'est que palimpseste, qui s'amoncelle ou disparaissent au cours des siècles, mais qui est le témoin des nœuds que font et défont les hommes au fil de l'histoire. De nouveaux espaces à explorer. Voilà à quoi ressemble la littérature de ces 10 dernières années qui jette son encre sur les livres arabes. Elle s'aventure dans l'épopée moderne post-apocalyptique depuis les événements du 11 septembre 2001. Dans la vaste plaine des genres, le roman reste incontestablement celui qui offre la plus grande variation sur la naissance d'un monde. Tout y est donc possible. Tout peut s'y réinventer. Tout peut s'y réjouir. Des libertés politiques à la révolution sexuelle, des droits des femmes à l'asphyxie de l'intégrisme religieux, de la tradition oppressante aux préjugés qui régentent la cellule familiale, de l'enfermement des frontières au droit à la dignité, du besoin de travailler à la précarité des démunis. En somme, rien d'original, si ce n'est dans la manière de libérer la parole qui fait voler en éclats les verrous des tabous. Le roman est-il pour quelque chose dans le mouvement pour la liberté et le changement? L'a-t-il devancé? Est-il un facteur d'avant-garde de ce qu'on appelle depuis le 14 janvier 2011, le printemps arabe? En tout état de cause, il semblerait que si Naïd cesse de l'annoncer, il continue de l'accompagner. Et les récits qui s'écrivent au rythme de l'actualité soulignent l'importance d'une conjoncture qui inquiète, du moins intrigue, et qui gagne les airs de la fiction. La littérature est-elle chimère ou gardien du temps? Quel que soit le prisme, le lecteur, lui, cherche dans les œuvres de quoi donner sens à son existence, rappelle Todorov. Sans perspective exhaustive, et pour ne citer que quelques auteurs, Alaa Aswany, Tahar Ben Jelloun, Mathias Sénard, Mohamed Leftar, Yamin Maleh, s'engagent sur la plateforme mouvante des mots qui trouble le quotidien des citoyens arabes, qui dépasse leur terrain d'écriture et qui transforme le paysage mondial. Par la voix de leurs personnages,
Ils expriment les tourments de société aux prises avec des bouleversements politiques et économiques dont le dénouement est incertain et bien entendu inconnu. Témoignage ou création, le texte de fiction colle à une histoire en cours d'écriture. Et qu'entonnent ceux qui choisissent d'y consacrer leur plume, quel que soit leur degré de renommée, au rang d'écrivain d'actualité. Deux questions essentielles seront au cœur de notre propos. Quelle est l'influence de la littérature sur le printemps arabe? Quel est l'impact du printemps arabe sur la création littéraire? Deux questions, certes, dont les réponses ne sauraient être définitives, comme ne pourrait l'être le pronostic sur la postérité de cette littérature. Au tribunal de l'histoire, nul ne sort indemne. En 399 avant Jésus-Christ, Athènes condamnait à mort le grand Socrate pour dissidence religieuse et corruption de la jeunesse. 21 siècles plus tard, les chefs d'accusation ne changent pas. Pour jeter en pâture ce que l'on juge païen obtus, libre penseur au but aux institutions répressives. L'histoire se répète inlassablement et les masques que les historiens découvrent et transcrivent sont aussi nombreux que disparates. Ils indiquent surtout combien le symbole est fort et malléable, mais ne peuvent dire ce qui s'est vraiment passé. Tout près de nous, les mouvements sociopolitiques qui agitent les pays arabes demeurent encore indéchiffrables. Hiéroglyphes modernes, ils échappent à la vox populi. Que reste-t-il pour combler les lacunes de l'actualité sentencieuse, si ce n'est la parole de l'écrivain? L'écrivain est-il médium? A-t-il le pressentiment de ce qui se prépare? Prévoit-il l'inattendu? L'oxymore est troublant, mais rien ne surprend en matière de fiction, car le propre de la fiction est bien inventé, invention ou usurpation, ou coïncidence imprévue entre fiction et réalité. Difficile de hasarder une réponse. L'art échappe aux lois de la pesanteur. Évanescent, mouvant, il extrait de la vie là où le personnage n'est que mot, et dans ce rapport à l'expérience solitaire de la lecture, le lecteur se contente d'hypothèses partielles et partiales. Pour Paolo Coelho, il faut prendre des risques. Nous ne comprenons vraiment le miracle de la vie que lorsque nous laissons arriver l'inattendu. Si l'inattendu est un paramètre de vie en écriture, c'est un artifice, plus ou moins exploité avec bonheur, de sorte que rejoignant Germaine Beaumont, on constate que ce qui gâche un peu la littérature contemporaine, c'est le désir de dépayser le lecteur par des choses bizarres, inattendues. L'aventure est partout. Voilà que le printemps arabe fait feu de tout bois et la littérature n'est pas en reste. Dans ce cas, peut-on parler de l'inattendu après le 14 janvier 2011, ou plutôt d'opportunisme pour les écrivains qui, tel Tarek Ouzzeloun, publient texte sur texte, l'étincelle par le feu, juste après la révolution en Tunisie. Des livres qui semblent avoir été écrits dans l'urgence, comme pour réagir à des événements qui bouleversent, avec une volonté de répondre au présent, d'être au plus près des acteurs de ces mouvements. Ce besoin d'observer et d'écrire ces mouvements populaires, le réveil de ces peuples, trop longtemps opprimés, leur courage, leur détermination, mais aussi leur laïcité, leur non-violence, est-il légitime? L'urgence est un bon stimulant quand on écrit. Il ne s'agit pas d'écrire vite, mais de saisir les faits au vol et de les mettre en mots. Toute écriture est une forme de réponse à une urgence. On n'écrit pas dans la lenteur et la torpeur. Du moins, ai-je toujours été emportée par mes sujets et mes personnages? C'est Angelo qui parle. On sait que l'écrivain s'est par le passé exposé à une vive controverse lorsqu'il a publié cette aveuglante absence de lumière bien après que le camp de détention de Casanare a été détruit. 10 ans plus tard, souhaitait-il rattraper la critique qui lui avait été faite en produisant des récits en simultané avec l'actualité politique que le monde suivait avec inquiétude, excitation, du moins attention. Au-delà de ce que la presse peut écrire et montrer, pour Benjeloun, le fictif arme le témoignage. Il explique. La littérature joue un rôle. Elle participe à décrypter l'histoire immédiate. J'ai tenu à imaginer ce qui a pu se passer dans la vie de Mohamed Bouazizi les jours qui ont précédé son immolation par le feu. Il faut toujours revenir à l'homme et à ce qu'il vit. Tant d'humiliation a débouché sur un meurtre, le meurtre de soi, un sacrifice spectaculaire. Le message, c'est d'inciter le lecteur à s'identifier au personnage et à se dire « Et si c'était moi l'homme de Dieu ?» La fiction basée sur le réel permet ce genre d'interrogation. Écrire est une façon de conjurer le réel, de le fendre, d'en briser la glace et de le redonner en mots et en pages. Je ne pouvais pas rester bras croisés face aux deux révoltes qui se déroulaient devant nos yeux. Il me fallait prendre la plume. Je ne sais pas si j'ai bien fait. En tout cas, j'ai rempli mon devoir d'écrivain et de témoin vigilant. Deux autres révoltes ont suivi depuis. Pourtant, l'écrivain est à leur sujet silencieux. D'autres écrivains, sans avoir prévu les changements en masse, s'attaquent aux mots qui aujourd'hui sont au cœur de toutes les revendications de liberté et de dignité humaine. Pour les pays arabes, longtemps muselés, la révolution est d'abord verbale. Et l'écrivain peut alors s'avérer utile pour le lecteur qui cherche un écho à sa voix et dont les aspirations démocratiques passent par le vecteur de la parole libérée. L'effervescence mondiale réduit les frontières et expose chacun à la prise de risque, au sursaut de ce qui, depuis la nuit des temps, a toujours passionné l'humanité, l'observation de son évolution au microscope. Il faut du talent pour bien rater sa vie, pour faire de son existence un long et irréversible désastre. Le destin du protagoniste du roman posthume de Mohamed Iftar, Le dernier combat du capitaine Yamed, est de cela. Ce livre a une valeur prémonitoire et son devenir est étonnant, pour ne pas dire détonnant. Il provoque une explosion. On en parle beaucoup, mais rares sont ceux qui au Maroc peuvent le lire. Ayant reçu dès sa parution en 2011 une critique largement positive, l'ouvrage est cependant introuvable dans les librairies marocaines. Est-il censuré? Le ministère de la Communication ne se prononce pas. Cela tient-il au sujet du livre? Mohamed Iftar situe l'histoire au cœur d'un quartier huppé du Caire quelques mois avant la révolution égyptienne, qui n'en finit pas de s'accomplir. Le personnage principal s'appelle Niamat. Retraité de l'armée égyptienne, il coule de paisibles journées entre sa villa douillette et le club où massage et natation constituent l'essentiel de ses activités. Tout bascule le jour où il découvre alors qu'il est marié et choyé par son épouse, alors qu'il a deux grandes filles qui poursuivent leurs études à l'étranger, qu'il découvre donc qu'il est attiré par son jeune serviteur de bien qui se nomme Islam. La descente aux enfers est inexorable, irréversible, la rédemption improbable. Solitude, déconsidération, fuite, traversée du désert, tout conspire à miner progressivement le personnage banni. Publié au cœur du tumulte provoqué par le printemps arabe dont les revendications souterraines sont bien d'imposer des barrières imperméables entre la liberté individuelle et la mascarade démagogique du salut pour le respect des lois du ciel et de la communauté, ce roman, bien que son auteur ne soit plus de ce monde pour le revendiquer ou le renier, est ce qu'on appelle un pavé dans la mare. D'outre-tombe, Mohamed Iftar continue de titiller les mentalités et de gêner les fous démons. Le pouvoir militaire comme le pouvoir religieux sont bien égratignés et les bandelettes de la momie égyptienne sous les doigts de ce styliste hors pair se dénouent, libérant le vécu que d'autres effacent ou défigurent. L'accélération de l'histoire est un début de réponse à la transformation profonde de l'existence individuelle. L'histoire est un grand H. Car comme l'explique Kundera, si jadis l'histoire avançait beaucoup plus lentement que la vie humaine, aujourd'hui c'est elle qui va plus vite, qui court, qui échappe à l'homme, si bien que la continuité et l'identité d'une vie risquent de se briser. C'est en effet ce que les événements politiques de ces derniers mois dans les aires géographiques arabes montrent avec fracas. trois dictateurs sont tombés l'un après l'autre. De terreur de leur nation, ils sont devenus pantins désarticulés, livrés en pâture au tribunal de l'histoire en marche. Yemen Naneh reconnaît dans son livre La Sérénade d'Ibrahim Santos avoir rédigé son manuscrit sous la menace de représailles à sa publication. Le thème abordé avec précaution, situé dans un pays d'Amérique latine indéterminé, est celui de la chute d'un régime autoritaire par la seule révolte du petit village. Résistance de la Gaule aux Romains, comme dans la bande dessinée Astérix, la parabole prend ici la couleur du conte. Coïncidence heureuse pour son auteur, le livre est achevé en décembre 2010 et sa publication réalisée juste après que l'improbable s'est produit un 14 janvier, bousculant tous les projets, laissant bouchonner une bonne partie de la planète. Et c'est lui qui parle. L'auteur parle, bien sûr, dans la préface, de la fuite du président Ben Ali. L'intérêt de ce roman tient-il dans la révélation de sa préface, de la concomitance entre le dénouement de la fiction et celui de la dictature tunisienne en place, de la prophétie de la parabole, de la fin de l'autocensure? Alors pourquoi le publier en l'état, celui où, comme Voltaire par le passé, il fallait déjouer la vigilance des coupeurs de tête? La sérénade joue des airs d'ironie prophétique, d'extase ravageuse. Ici, la politique révolutionnaire coïncide avec une prose de la destruction. Elle sape sa cage, oui, de sa folie, mais d'abord, elle manifeste. Depuis le 25 janvier 2011, Alain Eswani est l'un des principaux relais de la révolution égyptienne auprès des médias étrangers. Ce dentiste de métier s'engage en politique d'abord par la voix de ses personnages, qui reflètent le malaise d'une société prise dans l'étau de la censure et de la prohibition. Il se révèle un redoutable ennemi du régime en place avec son premier roman prémonitoire, L'immeuble à Coupion, publié en 2002, dans lequel il avait alors exprimé avec force le mécontentement larvé de son pays. Écrit en arabe et traduit dès sa parution en plusieurs langues, adapté au cinéma et à la télévision, le livre est devenu best-seller en Égypte, où il a été réédité plusieurs fois. Le microcosme de vie foisonnant d'un édifice autrefois grandiose du centre-ville du Caire, décrit avec mordant et humour, a levé le voile sur une société corrompue, haineuse des libertés individuelles, castratrice, déstructurée, où grondent les clivages de classe, enflent les préjugés sexuels et qui s'alimentent de l'extrémisme religieux qui couvait sous la paralysie du régime de la Sénégal. D'autres ouvrages ont suivi. Un roman, Chicago, un recueil de nouvelles, J'aurais voulu être égyptien, un florilège d'articles de presse rédigés par l'auteur jusqu'en 2008, Chronique de la Révolution égyptienne, qui traite des problèmes politiques auxquels est confrontée l'Égypte, ainsi que la situation politique d'autres nations arabes. La question religieuse est au cœur du tyrannique régime égyptien, dénonce le citoyen jaloux de vérité et de justice. L'islam, dans toute sa grandeur, avait poussé les musulmans à faire connaître au monde l'humanité, la civilisation, l'art et la science. Mais la tartufferie nous a menés à toute cette ignominie et à cette misère dans laquelle nous vivons, dit-il. L'écrivain attentif et commentateur du changement qu'il observe de l'intérieur jongle entre fiction et analyse d'un chapitre de l'histoire égyptienne qui n'en finit pas de s'écrire. Les lecteurs de société évoquent le génie et déflorent un ouvrage. Si les romanciers arabes ne touchent pas encore les masses, rares sont les livres qui se vendent à plus de 3000 exemplaires, leur influence est cependant amplifiée par d'autres canaux et par le respect qu'ils inspirent dans une ère linguistique qui s'étend du Maroc à l'Irak et compte 360 millions de personnes. Avec Rue des voleurs, publié en 2012, Mathias Hénard fait le double vœu de réunir deux mondes de prédilection pour lui, le monde arabe et l'Europe, et d'écrire le roman du printemps arabe. cela, la Bible du destin et de la mort est le théâtre des drogués, des laissés pour compte et des prostituées. Lardac, le jeune Tangérois de 20 ans, est chassé de chez lui pour avoir flirté avec sa cousine. Très vite, il est embauché comme libraire du groupe pour la diffusion de la pensée coranique et reçoit en échange gîte et salaire. Lorsqu'en février 2011, le vent du printemps arabe gagne le Maroc, la librairie devient un QG. Le modèle, c'est l'Égypte, où le patron de l'Ardal pressent déjà que les frères vont emporter le morceau. Ne supportant plus l'islamisme rampant, l'Ardal s'en va travailler sur un ferry reliant Tanger à Algésiras. Je vous passe les événements majeurs de ce texte, mais quoi qu'il en soit, avec Rue des voleurs, c'est ce que prétend écrire Mathias Hénard, c'est ce qu'il appelle une chronique du réel, qui nourrit et qui se nourrit de différents registres au sein desquels l'auteur puise une intense énergie narrative, les textes sacrés, la littérature classique arabe et le polar. Hanté par l'idée que les hommes sont des chiens, mais aussi que l'unité du monde arabe n'existait qu'en Europe, Hénard a bâti un univers où la fiction vient valider le réel. Que derrière chacun de ces livres, dont j'ai parlé très brièvement, le même monde se dessine, sombre et tumultueux, ne rassurera sans doute personne. La littérature, en fin de compte, c'est ce qui résiste à ce qui tire en arrière, à ce qui enferme, à ce qui attire. La valeur mythique des mésaventures vécues par les personnages conduit sur le chemin universel de l'expérience littéraire, celle dont Proust disait « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. » Et je vous remercie.